Allume la science.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ces mots.
Allume la science.
Bonjour et bienvenue à tous et toutes dans Allume la science, l'émission qui vous branche chaque semaine sur l'actualité des laboratoires de l'Université de Montpellier et de ses partenaires. Si je vous dis champignons, la plupart d'entre vous, les gourmands, penseront fricassés de trompettes, omelettes aux girolles ou poêlées de cèpes. Les bucoliques se verront dans les bois un dimanche d'automne, les maniaques dégailleront l'artillerie lourde contre la moisissure et les hypochondriaques crieront à la mycose. Quant aux amateurs d'expériences psychédéliques, ils revivront peut-être leur dernier trip en technicolore. Peu d'organismes ont la capacité de réveiller tant d'imaginaires différents. Et pour cause, il existerait entre 2,2 et 3,8 millions d'espèces de champignons dans le monde. Ni animaux, ni végétaux, ils constituent à eux seuls un règne, le règne fongique. Il existe un autre domaine qui s'intéresse de très près à ces organismes. Il s'agit de la recherche médicale et plus précisément de la recherche sur le cancer. De plus en plus d'études tentent à démontrer les puissants effets anticancéreux des champignons. Notre invité du jour est professeur émérite à la fac de pharmacie et rattaché au Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive de Montpellier, le CEF. Elle est spécialiste de ces êtres étranges et fascinants. Nous la recevons d'ailleurs régulièrement pour annoncer le salon du champignon, mais aujourd'hui, elle nous présente sa dernière publication sortie dans la revue Phylothérapie. Dans cet article, elle et ses collègues Dans cet article, elle et ses collègues font le tour des connaissances sur la mycomédecine appliquée au traitement du cancer. Elle nous aide à entrer dans le détail pendant les 20 prochaines minutes. Sylvie Rapieur, bonjour et bienvenue dans Allume la science.
Bonjour à vous.
Donc je me suis trompée, c'était pas dans la revue Phylothérapie.
C'est Phytothérapie.
Phytothérapie. Merci beaucoup pour la correction. Gourmande, bucolique, maniaque ou amatrice d'expériences psychédéliques, quel type de mycophile peut-elle bien être? Avec moi pour mener cette interview, Aline Perriot, bonjour.
Bonjour.
En deuxième partie d'émission, nous retournons à Sète, à la SMEL, la station méditerranéenne de l'environnement littoral, où nous passerons des champignons aux algues avec la culture de spiruline. Enfin, notre invitée de dernière minute est Anne Ducrot, neurologue au CHU. Elle nous présente la conférence qu'elle animera le 21 novembre sur le thème de la migraine. Allume la science, vous avez le programme, c'est parti.
Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0 moins 60 secondes. 59, 58, 57, 56, 55.
Alors, Sylvie Rapieur, cette publication est ce qu'on appelle une review. Donc, elle vise à collecter et à résumer toutes les données scientifiques disponibles sur un thème. Ici, donc, l'utilisation des champignons dans les traitements anticancéreux. Est-ce qu'elle est importante, cette littérature scientifique ?
La littérature scientifique sur le cancer, en prévention, en traitement, est très nombreuse. Mais bien sûr, il faut faire une mise au point en choisissant un certain nombre d'articles qui ont une validité scientifique. Sinon, on peut trouver un peu n'importe quoi dans des articles. Donc, une review, c'est une mise au point sur les expérimentations concernant des cellules. On traite et on applique des extraits ou des molécules isolées. Sur des cellules de différents types de cancers. Et par ailleurs, on fait des études précliniques et des études cliniques pour valider si les molécules ou les extraits sont véritablement efficaces.
Est-ce que c'est le premier travail de ce type qui a été réalisé sur ce thème ?
Alors, non, bien sûr. Et à Montpellier, nous avons déjà fait un travail en 2018 qui a été publié dans la revue le journal scientifique International Journal of Medicinal Mushroom. Il a été initié par Stéphanie Arnoux, qui était maître de conférence à l'Université de Montpellier et qui maintenant est à Toulouse, et deux de mes collègues qui sont le Sylvie Morel et le professeur Françoise Fons. Et donc, ça a été publié sur des champignons, sur le profil et le potentiel des champignons appartenant à l'ordre des bolétales, donc les cèpes dont vous parliez tout à l'heure, mais également de différents bolets, pour voir leur potentiel sur des cellules anticancéreuses.
Alors, on parle donc de mycomédecine, pardon. Est-ce que c'est courant en santé en général d'avoir recours aux champignons ?
Non, pas du tout. En fait, les différentes pharmacopées, s'agissant de la pharmacopée française, européenne, d'une part, et d'autre part, les pharmacopées asiatiques, ayurvédiques en Inde ou chinoises, ne vont pas avoir la même approche vis-à-vis du monde végétal, animal ou fongique. Donc, les pharmacopées asiatiques vont beaucoup plus utiliser, par exemple, le ganoderme luisant comme une ressource naturelle potentiel ou avéré, ayant des molécules à vertu, j'utilise ce terme vertu plutôt que propriété anticancéreuse.
Et en Europe, est-ce qu'on a déjà développé des médicaments qui soient issus de champignons ?
Alors oui, il y a notamment un médicament qui s'appelle le Gilenia, qui est tiré d'un champignon dont le nom de genre est Cordyceps. Et ce médicament qui est sur le marché, qui est donc administré dans les différents hôpitaux, y compris à Montpellier, est utilisé dans un traitement préventif de la sclérose en plaques. Entendons-nous bien, on ne guérit pas de la sclérose en plaques, mais certains patients, quand le traitement est pris au début d'une pathologie, peut contribuer à un certain bien-être du patient en question.
Alors donc, en lisant cette publication, donc, on apprend l'existence de différents composés bioactifs du champignon. Vous citez les acides phénoliques, les flavonoïdes, les polysaccharides, les terpénoïdes ou encore les protéines qu'on connaît plus, ces composés, on ne les trouve que dans les champignons ?
Non, pas du tout. Ils ont été surtout travaillés au niveau des plantes, puisque vous savez que les plantes, vous les voyez tous les jours. Les champignons, il faut les chercher. Ils ne viennent pas à vous aisément. Donc, les molécules les plus faciles à trouver, c'était en effet les polyphénols, les flavonoïdes, les acides phénols dont vous avez parlé. Pour rechercher ensuite les polysaccharides et les terpènes ou terpénoïdes, il faut des méthodologies un peu plus complexes. Et avec le développement des méthodologies analytiques, spectrales, on arrive mieux à identifier ce type de molécules que l'on trouve donc aussi maintenant dans les champignons.
Alors justement, ces molécules, en tout cas ces composés actifs, on va revenir à votre sujet de publication, comment ils peuvent agir sur le cancer alors ?
Alors, il y a différentes voies d'action sur les cellules cancéreuses, puisque tout se traite d'abord sur des cellules. Et la voie qui a intéressé l'équipe indienne avec laquelle nous avons travaillé est la voie de la mitochondrie. Mais il y a bien sûr d'autres voies possibles pour essayer de cibler une cellule cancéreuse, puisque la cellule cancéreuse est une cellule qui ne s'arrête jamais de se développer.
Alors justement, vous écrivez aussi que la recherche souhaite développer des thérapies alternatives, donc plus sûres et plus efficaces que les traitements classiques, qui cibleront plus efficacement les cellules cancéreuses grâce à l'activation de la voie apoptotique. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots ce que c'est que l'apoptose et pourquoi c'est une cible importante pour les thérapies anticancer ?
Alors, l'apoptose, c'est la mort cellulaire. Or, une cellule cancéreuse n'arrête pas de vivre, donc il faut essayer qu'elle s'arrête de se développer. Et bien sûr, la thérapeutique ou les thérapeutiques en chimiothérapie sont des thérapies très efficaces, chimiothérapie et radiothérapie. Donc là, nous sommes à la recherche de nouvelles molécules, des ressources naturelles qui pourraient être utilisées potentiellement pour améliorer un traitement déjà existant et non pas s'en substituer, bien entendu. Donc, l'apoptose, c'est essayer à tout prix d'arrêter une cellule cancéreuse de se développer. Donc, c'est fondamental.
Alors, je reviens sur la question que vous avez évoquée rapidement tout à l'heure, celle des mitochondries. On en parle beaucoup dans la publication. C'est les structures génératrices d'énergie qui sont considérées comme la centrale électrique de la cellule. Comment est-ce qu'elles sont spécifiquement impliquées dans le développement des cancers, ces mitochondries ?
Alors là, ça reste moins mon domaine que mes collègues de l'université de Calcutta en Inde, je pense qu'ils ont estimé que cette voie était celle qui était la moins connue, donc une des pistes potentielles à développer par rapport au doctorat de la première auteure qui est Sudeshna Nandi, et c'est le choix qu'ils ont fait dans cette équipe de développer plutôt la recherche sur la voie mitochondriale, peut-être moins travaillée que les autres voies potentielles.
Et est-ce que dans l'idée, le principe, ce serait de couper justement l'énergie nécessaire à la prolifération des cellules cancéreuses en agissant sur cette centrale électrique ?
Ça pourrait être une des voies, voilà. on coupe l'énergie un peu comme l'électricité, et donc ben, on se retrouve dans le noir quand il n'y a plus d'électricité. Peut-être que si on ne donne plus d'énergie à une cellule, elle va s'arrêter de se développer. Je n'ai pas encore dit qu'elle allait mourir, nous sommes d'accord. Hein.
Ça, on sait le faire avec d'autres principes que ceux des champignons, ou on ne sait pas le faire du tout?
Alors, je pense que les thérapies qui sont peut-être mises à jour et utilisées par les médecins, ils vous en diront un peu plus que moi, n'ayant pas les compétences dans ce domaine-là.
Complètement, merci de cette réponse. Alors, vous dites que plus de 600 essais cliniques ont été réalisés aujourd'hui avec des champignons médicinaux. Alors, qu'est-ce qu'il en ressort de ces 600 essais cliniques?
Alors, la première des choses, c'est qu'il n'y a pas de protocole et de consensus international. Donc, c'est très difficile de pouvoir comparer toutes ces études les unes par rapport aux autres. Il faudrait déjà que tout le monde s'entende, et vous comprenez bien que chacun garde ses prérogatives. Donc, ça ne sera pas aisé. Il y a des pistes potentielles, comme vous l'avez dit, les molécules qui sont utilisées, ce sont les bêta-glucanes, ce sont des polysaccharides qui ont un des meilleurs potentiels dans les essais précliniques publiés et les essais cliniques, et les terpénoïdes auxquels vous avez fait référence tout à l'heure également. Donc ce sont des pistes qui sont à envisager, et on est maintenant au stade et à la phase 1, à la phase 2 ou à la phase 3 des essais cliniques. Comme pour un médicament, on a une autorisation de mise sur le marché, il y a différentes phases. Pour les extraits ou les molécules isolées de champignons, c'est la même chose.
Alors, est-ce qu'il y a justement des familles de champignons qui sont plus intéressantes que d'autres?
Oui, alors l'Asie, toujours, est un petit peu en avance sur nous. Et ils utilisent un champignon du genre, plusieurs champignons du genre ganoderme, en latin c'est ganoderma, bien évidemment pour extraire et isoler des molécules afin de les identifier, vous imaginez bien qu'il faut beaucoup de matériel sans détruire la biodiversité. Donc ils vont passer par voie biotechnologique pour les développer, et les Asiatiques ont beaucoup cultivé les ganodermes pour en extraire des molécules qui s'appellent les acides ganodériques, qui sont testés sur les cellules en études précliniques et en études cliniques.
Et on pourrait envisager de l'appliquer à tout type de cancer, ou alors il y a des cancers qui sont plus réceptifs que d'autres?
Alors, déjà, il y a des cancers qui sont plus réceptifs que d'autres, mais là, je suis moins compétente par rapport à un médecin, mais surtout qu'à une molécule donnée, si on fait différents tests sur cellules, on va faire sur les cancers de la prostate, sur les cancers ovariens, du sein, et il va y avoir des réponses différentes en fonction du type de cellule utilisée. Donc on ne peut jamais prédire sur quel type de cellule cible une molécule isolée va agir avec un fort pourcentage de réussite, entre guillemets.
Vous avez dit qu'il était difficile justement de comparer ces 600 essais cliniques. Comment donc vous avez ouvert une piste, celle donc d'un protocole international? C'est engagé, ça, ou c'est encore compliqué?
Non, il reste à faire, et je ne suis pas médecin, donc ça sera probablement pas moi qui vais faire cette démarche. Ça ne fait que constater. Certains oublient de mentionner si le champignon utilisé est sec ou frais, donc du coup les calculs ne sont pas comparables. On ne sait pas si les cellules sont utilisées sur un certain nombre de fois et de répétitions, donc est-ce qui est valide comme résultat, et puis le nombre de patients. On peut mettre en doute certaines fois le nombre de patients ciblés.
Oui, donc il y a beaucoup de pistes sur lesquelles agir.
Oui.
Alors, on a lu aussi dans cet article qu'il est scientifiquement prouvé qu'une alimentation riche en certains champignons aide à guérir certains types de cancers. Est-ce qu'on peut vraiment dire ça?
Non. Non, non. Là, c'est une erreur de mots en anglais. Et là, je dois dire que j'avais bien prévenu mes co-auteurs indiens. On ne guérit pas d'un cancer en prenant des compléments alimentaires. C'est en préventif, en accord avec le corps médical, bien entendu. Et avant d'arriver à avoir et de pouvoir publier que l'on guérit d'un cancer en utilisant une molécule issue véritablement de plantes ou de champignons, je pense que nous aurons d'autres interviews.
Alors, on sait que toutes les plantes ont potentiellement, enfin beaucoup de plantes ont potentiellement un effet toxique. Les champignons, on y pense encore plus qu'avec d'autres plantes. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que les champignons sont potentiellement plus toxiques que d'autres plantes en général? Et comment on fait pour gérer ces questions de sécurité?
Alors, je ne sais pas si le terme « plus toxique » est juste, mais en tout cas, au moins aussi toxique et aussi mortel. Si vous prenez une plante avec l'aconite, la digitale, ce sont des plantes mortelles. Si vous en faites une infusion, non, vous n'allez pas en faire peut-être une deuxième. Mais les champignons... champignon, c'est un acte gratuit. On va le cueillir, donc on est content, on fait des photos avec son portable, on le montre et puis on mange. On invite les copains, on est sûr qu'on le donne à sa grand-mère. C'est ce qui est arrivé il n'y a pas très longtemps. Et en fait, nous avons deux listes, donc la mycoliste et la phytoliste qui nous permet d'être contactés par les centres anti-poison. Et en ce moment, nous avons 20-30 cas par jour de sollicitations de la part des centres anti-poison, parce que d'aucuns a mangé un champignon qui ressemble à un agarique. Ben non, c'était pas le bon, parce qu'il jaunit beaucoup.
Juste en France ?
Ah oui, c'est juste. Alors, c'est la France métropolitaine et la Belgique depuis peu de temps. Et là, nous avons tous les jours les agariques, les lépiotes élevées qui sont confondues, hein, ce qu'on appelle la Macrolepiota procera, le Saint-Michel, qui est confondu avec des espèces très proches, mais qui va vous donner des bonnes gastro-entérites. Bon, et puis, il y a des cas mortels, hein, donc avec la manie de phalloïde.
Vous nous parliez tout à l'heure justement des applications qui finalement peuvent aussi faire plus de mal que de bien.
Oh oui, nous avons cette année un développement des applications. Alors je ne vais pas en citer pour ne pas leur faire de publicité, mais nous avons eu plusieurs cas sur la mycoliste avec des patients qui arrivent en disant « mais j'ai regardé avec mon téléphone portable, avec telle application, je suis sûre que c'est le mousseron de printemps et en fait c'était l'antholome livide, comment penser ?» En octobre, on est un mousseron de printemps qui pousse. Donc, les applications, il faut s'en méfier. Il vaut mieux aller voir quelqu'un de compétent, qui sache reconnaître.
Donc, son pharmacien, par exemple ?
Alors, les pharmaciens, je vais parler au moins de ceux de Montpellier, depuis 30 ans ou 40 ans, ont de la mycologie en quatrième année de pharmacie, toute la promotion des 230 étudiants de pharmacie. Et en cinquième année, dans la filière officine, nous avons 100 étudiants, ou à peu près. Et alors là, ils ont beaucoup de mycologie, les travaux pratiques, les cours magistraux, ils peuvent faire des sorties sur le terrain avec la Société d'horticulture et d'histoire naturelle de l'Hérault pendant le week-end, qui organise des sorties tout public.
Très bien, on vous remercie beaucoup. Donc on comprend bien le message, les champignons c'est plein d'espoir, mais attention quand même, c'est bien ça.
Tout à fait.
Merci beaucoup Sylvie Rapior et à bientôt j'espère.
Merci à vous.
Et on passe maintenant à notre séquence reportage. Donc on retourne à la SMEL, la station méditerranéenne de l'environnement et du littoral.
Oui, et pour ce quatrième reportage, on va suivre Léa Giannichini, qui est assistante ingénieure à la station marine et qui est responsable de la plateforme recherche et développement. Elle va nous expliquer comment et pourquoi elle cultive de la spiruline.
On a plusieurs axes, on va dire, d'intérêt. Il y a déjà une partie qui va être sur la culture de microalgues. On a par exemple des tests en cours sur de la spiruline. Et notre rôle ici à la station par rapport à cette spiruline et ce pigment, ça va être dans un premier temps de cultiver la spiruline, de trouver les conditions optimales pour qu'elle puisse pousser. Donc ici, c'est une salle qui va être dédiée à la culture en petit volume de microalgues. Donc on aimerait bien faire une sous-jothèque, donc une réserve de plein de microalgues. Donc à l'intérieur, oui, c'est de la spiruline. Et les tests qu'on essaie de faire en ce moment, donc c'est de voir les conditions optimales pour qu'elle pousse. Donc on vient modifier les éléments qui vont constituer ce qu'on appelle son milieu de culture. Et là, on essaie de voir quelle forme d'azote ou de phosphore est la meilleure pour la croissance de cette spiruline. On a deux incubateurs, on les a réglés sur deux températures différentes pour essayer de voir aussi si la température a un effet, trouver la température optimale pour la croissance.
Alors la plateforme, elle s'appelle Recherche et Développement, vous nous avez dit. Est-ce que ça veut dire qu'après vous travaillez avec des industriels qui viennent s'intéresser à vos résultats ?
C'est ça, oui. En fait, c'est des projets qui sont vraiment liés à des entreprises, ouais, oui, qui veulent développer ça. Donc là, c'est une entreprise qui veut faire pousser de la spiruline pour en produire. Et donc, on essaie de leur trouver les conditions optimales pour la faire croître.
Pourquoi les liquides n'ont pas la même couleur en fonction des flacons ?
Parce que c'est des tests différents.
Ça sonne.
La réaction de la spiruline face aux différentes conditions qu'on lui a imposées. Il y a des conditions qu'elle tolère plus que d'autres, donc des compositions du milieu qu'elle préfère à d'autres. Ce qui va être intéressant, ça va être de voir la durée dans le temps de la culture, pour voir si on a, bah, si elle peut se maintenir plus longtemps. Ce sera assez intéressant, notamment pour l'entreprise, parce qu'elle aurait un entretien moins intense, on va dire, à faire. On cherche à voir aussi les tests qui vont nous donner les niveaux de production les plus importants. Donc, en gros, à quel point c'est vert, pour faire simple. Donc ouais, ça c'est deux paramètres importants pour en tout cas les tests de production. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on fait des réplicas. Donc là on a 6 conditions différentes et chaque condition on les fait en deux Erlen. Dans le passé, on a aussi travaillé sur la Dunaliena saliena. Donc c'est une algue qui vit essentiellement dans les eaux saumâtres, très salées. On la retrouve par exemple en Camargue.
Et elle c'est comestible aussi ?
Alors, ce qui est intéressant chez celle-là, c'est les bêta-carotènes. Donc, le projet, c'était de trouver les conditions optimales pour produire énormément de bêta-carotènes.
Et l'idée derrière en utilisation, c'est pour faire quoi ? Des compléments alimentaires, par exemple ?
Oui, c'est un peu pareil que la phycocyanine. C'est ce genre de pigments, ils ont des propriétés antioxydantes. C'est vraiment la principale valeur ajoutée. Voilà. Après, peut-être qu'on peut aller voir dans la salle d'algues les PBR. C'est des grosses structures qui nous servent à faire la culture de spiruline aussi.
On peut aller regarder ça.
Voilà. Donc ici, c'est pour la culture de spiruline, mais en grand volume. Parce que ce qui est important, en fait, dans les travaux d'écologie comme ça, c'est de passer des petits volumes. On va pouvoir avoir des conditions très contrôlées à des plus grands volumes qui vont être plus représentatifs de l'état naturel, en fait, des organismes qu'on cultive. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des PBR, donc photobioréacteurs. Ceux-là, ils font une centaine de litres. Donc là, on n'est pas encore en culture, mais c'est là-dedans qu'on viendra mettre une fois qu'on aura validé nos petits tests en incubateur, on pourra les réaliser dans ce genre de structure pour valider en fait nos hypothèses principales.
Et là, vous produisez des quantités importantes de spiruline avec ça ?
Avec ça, donc quand elles sont en culture là-dedans, ce qu'on fait après, c'est qu'on, pour la récupérer, il faut la passer sur une maille. Donc c'est ce qu'on voit ici, pour pouvoir séparer l'eau.
C'est un filtre ou un tamis ?
Oui, c'est ça. C'est un tamis très très fin, à 50 micromètres. Voilà, donc la spiruline va rester en surface, on pourra la récupérer. Pour la conditionner, c'est mieux de la sécher. Donc c'est ce qu'on fait, on a des fours, il me semble que c'est à 30 ou 50 degrés. Fait vraiment pas très fort pour pas abîmer les cellules. Et une fois qu'elle est sèche, elle peut être consommée comme ça, si c'est voué à la consommation. Ou alors suivre des phases d'extraction pour retirer les pigments comme la phycocyanine.
Merci beaucoup pour ce reportage, Aline, et on retourne à la semaine prochaine. Et j'accueille maintenant notre invitée des 3 dernières minutes. Elle est neurologue au CHU de Montpellier, responsable de l'équipe médicale migraine et céphalée, professeure à l'Université de Montpellier et chercheur au laboratoire L2C, donc Charles Coulon. Anne Ducrot, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour.
Donc avec vous, nous allons parler d'une conférence organisée par le service qualité de vie au travail de l'université sur le thème de la migraine. Un événement ouvert à tous mais sur inscription qui se déroulera le 21 novembre prochain sur le campus Triolet. Alors pour commencer, Anne Ducrot, quand on parle de migraine, on parle de quoi ? Quelle est la différence avec un mal de tête classique ?
Alors la migraine se différencie des maux de tête classiques par des critères en fait qui sont bien précis. Donc les patients migraineux ont des crises répétées, de maux de tête sévères qui peuvent durer entre une demi-journée et 3 jours et qui vont s'associer à des troubles digestifs, nausées, parfois vomissements et une sensibilité très importante au bruit et à la lumière.
D'accord, donc une pathologie assez invalidante, on y reviendra. Est-ce qu'on sait à quoi c'est dû la migraine ? Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau ?
Oui, alors les migraineux en fait ont hérité de leurs parents des deux côtés un ensemble de gènes qui les prédisposent à la maladie, et ça explique à peu près 45% de la pathologie. Et ensuite, les personnes migraineuses ont un cerveau qui est trop sensible aux changements, que ce soit des changements internes ou externes. Par exemple, les changements de pression atmosphérique, les changements de rythme, le fait de ne pas assez dormir. Et dans ce cas-là, chez eux, eh bien, un système de protection aberrant du cerveau se met en place, avec une vasodilatation, et la libération de substances chimiques qui créent la douleur.
Alors, beaucoup de personnes sont impactées par cette pathologie. Donc, j'ai lu que c'était la maladie neurologique la plus invalidante chez les personnes de moins de 50 ans et la deuxième pathologie la plus invalidante chez les plus de 50 ans. C'est vrai, ça ?
Oui, tout à fait. Donc ça, ce sont des études extrêmement sérieuses, hein, publiées tous les ans dans des journaux de très haut niveau de preuve et qui étudient l'impact des maladies chroniques. Et la migraine, c'est la pathologie neurologique la plus invalidante chez les personnes de moins de 50 ans. Et en termes de fréquence, hein, dans la population, on peut estimer qu'il y a 15% de migraineux, à peu près dans tous les pays, un peu plus ou moins selon les continents. Et chez les enfants de moins de 10 ans, c'est 5%. Et après la puberté, la prévalence augmente et il va y avoir 3 fois plus de femmes atteintes que d'hommes.
Et on parle pourtant de sous-diagnostic. Alors pourquoi elle n'est pas prise au sérieux, cette maladie ?
Ah non, complètement. C'est-à-dire qu'il reste des vues totalement erronées d'une pathologie qui serait exclusivement féminine. Qu'il suffirait de se reposer, de prendre un paracétamol ou un café pour le faire passer, et que la plupart des migraineux seraient eux-mêmes responsables de leur crise parce qu'ils sont trop stressés, par exemple.
D'accord. Est-ce qu'il existe des traitements à l'heure actuelle efficaces, autres que les doliprane, en effet ?
Ah, il existe de très nombreux traitements et l'arsenal thérapeutique s'enrichit grâce à une recherche très dynamique. Donc pour les crises, en plus des antalgiques, en fait, qui n'ont pas vraiment leur place dans le traitement de la migraine et qui peuvent même les aggraver, il y a des traitements spécifiques comme les triptans. Et pour diminuer la fréquence des crises chez les personnes qui en ont beaucoup, en plus des mesures d'hygiène de vie, que la conférence abordera, il y a des traitements de fond médicamenteux et également des nouveaux traitements de fond injectables, spécifiques, avec très peu d'effets indésirables. Et il existe également des techniques de régulation qui sont tout à fait nouvelles et encore assez peu diffusées en France.
Et oui, avec des problématiques de remboursement, je crois.
Alors, oui. Malheureusement, en France, pays de la sécurité sociale, hein, il faut noter que tous les derniers traitements les plus efficaces et les mieux tolérés de la migraine ne sont malheureusement pas accessibles et pas remboursés. Pour certains, les patients doivent les acheter eux-mêmes avec un coût qui peut être exorbitant, de 250 euros par mois. Et pour les autres traitements qui sont pris en charge à l'hôpital, eh bien le souci, c'est que les services spécialisés dans la migraine sont peu nombreux, avec l'exception d'un anticorps anti-CGRP qui est maintenant disponible à l'hôpital, mais seulement depuis quelques mois, mais qui, puisqu'il est disponible à l'hôpital, sera victime d'une sorte d'effet d'entonnoir, puisqu'il y a beaucoup de migraineux sévères en France, et les migraineux sévères sont quand même assez nombreux dans la population. Il va y avoir un effet d'entonnoir pour l'accès au traitement.
Eh oui, on vous remercie beaucoup. Il y aurait vraiment beaucoup de questions à poser sur la migraine et c'est bien pour ça que vous donnez cette conférence. Donc je répète, elle aura lieu le 21 novembre prochain de 12h30 à 13h30, c'est bien ça, 12h15 je crois, à 13h30 sur le campus Triolet et elle est ouverte à tous. Vous confirmez, oui ? Je ne sais pas si vous m'entendez bien.
Oui, je confirme. Et d'ailleurs, ils ont dû changer l'amphithéâtre car il y avait déjà 320 personnes inscrites. Voilà, donc renseignez-vous sur le lieu exact.
Très bien, oui, je mettrai toutes les informations donc sur la page de notre émission, sur le site de Divergence et sur le site de l'université. Un grand merci à vous, Anne Ducrot.
Merci.
Au revoir, merci.
Au revoir.
Allume la science, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Tom Chevalier pour la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez branchés.
Allume la science.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ces mots.
Allume la science.